Eh bien, merci les musiciens. Dieu vous bénisse. Amen. Tout le monde va bien? Oh, il y a quelque chose qui me dit un instant. Oh, mais c'est mon téléphone. Il s'est mis en marche tout seul sans que je demande. Voilà. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ce que j'ai à dire ce matin et que toutes les choses un peu compliquées que je vais dire puissent être comprises afin que le rétablissement de toutes choses puisse se poursuivre et que tes enfants véritablement sincères puissent aller de l'avant avec l'huile nécessaire pour pouvoir avoir les lampes allumées lorsque tu reviendras. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Je lis dans Marc, chapitre 11, verset 25. Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Amen. Le message que je vais donner aujourd'hui est sans doute le plus important message que je donne depuis 5 ans. Il va falloir vous accrocher parce que il y a des choses qui m'ont été révélées qui sont très importantes pour notre bien-être personnel, mais aussi pour le bien-être de l'Église. Des choses qui ont été oubliées. Vous savez que nous sommes entrés dans le rétablissement de toutes choses, et les choses se rétablissent, mais très souvent dans la douleur. Par exemple, notre frère Stéphane est tombé hier en jouant avec le chien et il a son doigt qui lui fait mal encore et ça se rétablit, mais il y a encore des douleurs. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme ça. Et ce matin, je voudrais vous parler au sujet du pardon. Vous avez compris d'après le texte que je vous ai lu et j'ai attendu cette date du 28 juin pour vous dire ces choses parce que c'est une date importante pour nous. Hier, le 27 juin, nous fêtions les 1 an de la vente de notre château que nous avions en Normandie, contraint par certains associés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça faisait 26 ans que nous vivions dans ce château, en y recevant des gens pour les bénir. Le but n'était pas de posséder un château. Le but, c'était de recevoir des gens pour les bénir, pour les aider, pour prier avec eux. Nous avons vécu des miracles de guérison et beaucoup de choses vraiment divines. Je me rappelle de cette vieille dame noire qui était venue avec ses cannes et qui avait une peine incroyable à marcher et qui, après la prière, a sauté de sa chaise, a commencé à courir. Vous vous souvenez de ça? Il y a son témoignage, on a même la vidéo de ça. Et son petit-fils, en voyant sa grand-mère sauter et courir comme ça, est sorti du château en courant, il a eu peur. Parce que ça l'a impressionné de voir ça. On a vécu de très belles choses là-bas. Et évidemment, contraint de vendre à cause de ses associés, nous étions blessés. Mais nous connaissions le remède, c'est-à-dire le pardon. Vous savez, Dieu ne favorise personne. Je vous le dis souvent. Stéphane est tombé, voilà, c'est pas parce qu'il est chrétien qu'en jouant avec le chien, Dieu va le garder au point qu'il ne tombe pas et qu'il ne se blesse pas le doigt. Hein. La vie ne favorise personne, c'est des choses impondérables qui peuvent arriver. Dieu fait ce qu'il veut, il utilise parfois des chiens pour faire tomber quelqu'un, comme c'est vrai. Il utilise des fois des gens, il utilise des fois le diable, des fois des démons, il utilise des circonstances pour que les choses qu'il veut arrivent. Alors nous savions une chose, avec certitude, c'est que Dieu fait toujours le mieux pour ceux qu'il aime. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, pourquoi entretenir du ressentiment envers ceux qui avaient provoqué cette situation, puisque nous savions que de toute façon, c'était pour notre bien? C'est une chose de savoir, c'est une autre chose de le vivre. Avec le temps, nous avons tiré, et j'ai tiré de grandes leçons de cette affaire, et je tiens à les partager avec ceux qui écoutent Révélation Bible, les messages. Et dans le pardon, il y a un ingrédient essentiel, c'est le consentement. Le consentement. Toute notre communauté avait intérêt à pardonner. On sait qu'on a intérêt à pardonner. Mais c'est pas facile. C'est une blessure et ça peut prendre du temps. Mais nous voulions pardonner. Alors, nous avons appris des choses que nous ne savions pas au sujet du pardon. Quand on ne veut pas pardonner, Dieu ne nous parle pas, il nous laisse. Mais quand on veut pardonner, Dieu nous parle, mais il ne nous dit pas tout d'un coup, parce qu'on ne pourrait pas le supporter. Et ce que je vais vous dire ce matin, maintenant vous êtes à même de le supporter. Mais, à l'époque, ça aurait fait flop. Jésus nous dit que nous devons pardonner. Alors, étant disciples de Jésus-Christ, nous voulions pardonner et... Quand on veut sincèrement pardonner, il faut savoir que 50% du chemin est déjà fait. Quand on veut pardonner. Bon, je suis persuadé que jusque-là, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Pardonner ne signifie pas nécessairement que vous souhaitez entretenir une relation avec celui ou celle à qui vous donnez le pardon. Vous ne pouvez pas être contraint à aimer quelqu'un. Aucun gouvernement ne peut imposer par des lois la bonne volonté, l'amour, la paix, la tolérance. Mais il se trouve pourtant que nous pouvons aimer divinement les êtres sans les aimer humainement. Voilà la chose. Voilà la clé. Vous savez bien que Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres ». Donc c'est un ordre, « Aimez-vous les uns les autres ». Et ça, chacun peut le faire s'il le veut vraiment. Aimer, cela signifie d'abord, parce qu'il y a tout ordre de degré, ça signifie d'abord que l'on souhaite aux autres la santé, le bonheur, la paix, la joie et toutes les bénédictions possibles et imaginables. Et il n'y a qu'un seul impératif, c'est la sincérité. Il faut souhaiter sincèrement le bien de ceux qui nous ont fait du mal. Ça, c'est la première chose si vraiment on veut obéir à Jésus qui nous dit d'aimer même notre ennemi. Il faut savoir que quand vous aimez comme ça, quand vous pardonnez comme ça, vous n'êtes pas magnanime. C'est pas, ça n'a rien à voir avec autre chose. Vous n'êtes pas magnanime quand vous pardonnez. Être magnanime, c'est encore une autre étape. Vous voyez qu'il n'y a rien de simple dans la vie. Être magnanime, c'est être poussé à agir de façon désintéressée, avec une pleine conscience de nos possibilités à réaliser notre idéal. Quand Jésus nous dit d'être magnanime, c'est aussi être clément, généreux et indulgent envers nos ennemis vaincus. Ça, c'est le dictionnaire. Mais personne n'était vaincu dans l'histoire. Nous n'avions pas à pardonner des gens vaincus. Nous n'avions pas à être magnanime, donc. Être magnanime n'a rien à voir dans beaucoup de situations où nous devons pardonner. Il faut le savoir. Ça, ce sont des mots français. Nous avons une langue formidable et il faut comprendre ce que les mots signifient. Dans le cas qui était le nôtre, pardonner, c'était simplement un acte, pardonnez-moi, égoïste. Parce qu'en vérité, ce que vous souhaitez aux autres, vous vous le souhaitez à vous-même. Cela vous donne de la paix à vous. La personne que vous pardonnez peut s'en fiche complètement de votre pardon. Mais vous, si vous pardonnez, vous faites du bien à vous. C'est pourquoi je dis, dans notre situation, pardonner, c'était un acte égoïste. Puisque c'est vous qui le pensez, puisque c'est vous qui le sentez, c'est vous qui bénéficiez de tous les bienfaits du pardon que vous accordez aux autres. Or, tel vous pensez et sentez, tel vous êtes. C'est ce que la Bible nous dit. Si je pense, moi je souhaite du mal, j'y souhaite aussi, j'y souhaite. Ce que votre esprit retient, c'est mal, maladie, malheur, difficulté. Et ça s'inscrit en vous et ça vous arrive à vous. C'est facile à comprendre. Alors, cela, ce sont des explications, ce sont des belles phrases que notre conscient peut accepter ou rejeter en disant « je m'en fous », mais on peut les accepter, et moi je les accepte, mais ce sont toujours que des belles phrases. Mais comment pardonner pratiquement? Comment? Eh bien, pour tout, il y a de la pratique. Par exemple, ce matin, nos musiciens ont joué, mais ils ne se sont pas mis aux instruments en faisant n'importe quoi. Il y a de la pratique derrière pour arriver à faire ce qu'ils ont fait. Pour tout, il y a de la pratique. Si vous me mettez à la cuisine, tout à l'heure, je vais y aller pour faire la fondue. Ça, je sais faire parce que j'ai de la pratique. Mais si vous me demandez de faire du poisson comme Philippe fait du poisson, j'en suis absolument incapable parce que j'ai aucune pratique. Je n'ai jamais même touché un poisson autrement qu'avec une fourchette. Il faut de la pratique. Donc, pour pardonner, comme Jésus veut que nous le fassions, il faut une certaine technique. D'abord, il vous faut trouver un endroit tranquille. Quand on veut faire quelque chose de sérieux, il faut trouver un endroit tranquille. Une chose, je me rappelle quand je travaillais dans une boîte américaine, il me disait, pendant les réunions, on coupe le téléphone. Eh bien, quand on veut avoir une communion avec Dieu, quand on veut avoir vraiment quelque chose de profond dans notre vie, on trouve un endroit tranquille, et puis on coupe le téléphone. Détendez-vous. Tranquillisez votre âme, c'est-à-dire votre conscient qui est blessé, vous tranquillisez. Pensez à Dieu, à son amour pour vous. Et puis ensuite, après avoir tranquillisé votre âme, être bien dans le calme, vous affirmez à haute voix, librement et pleinement, je pardonne à, et puis vous dites le nom. Dites, je libère mentalement et spirituellement cette personne. Je pardonne complètement tout ce qui se rapporte à l'affaire en question. Je suis libre et il est libre. Je le libère. Et je fête une amnistie générale. Et libère tous ceux qui m'ont blessé. Je souhaite pour chacun d'eux la santé, le bonheur, la paix, la prospérité et toutes sortes de bénédictions. Je fais ça librement, vous le déclarez, vous le proclamez. Jésus est le souverain sacrificateur de ce qu'on proclame. Vous vous rappelez, je vous ai enseigné ça. Je fais ça librement, je fais ça joyeusement, je fais ça avec un amour divin. Et chaque fois que je pense à cette personne qui m'a fait du mal, je dis, je vous ai libéré de toutes les... et que toutes les bénédictions soient sur vous. Chaque fois que cette personne vient dans votre pensée, je suis libre et vous êtes libre. Vous dites ça au sujet de la personne qui vous a offensé. Tu es libre, je te libère. Est-ce que vous avez bien compris? Ça, c'est la technique. Cela, c'est le pardon divin et non pas le pardon humain. Parce que c'est facile. Moi aussi, je peux dire, mais je te pardonne. Pardon. C'est facile. Puis ça a l'air tellement spirituel. Jésus ne donne pas comme le monde donne. Jean chapitre 14, verset 27. Cela veut dire que Jésus ne pardonne pas comme le monde pardonne. Le monde a une façon de pardonner, qui est des fois très belle. Mais Jésus, c'est encore un niveau au-dessus. Et on va voir ce que c'est. C'est là que bien des chrétiens se trompent, ils pensent avoir pardonné, mais ils ont pardonné comme le monde pardonne. Moi, j'ai fait ça longtemps. Oh, ça a traîné, hein. Or, Jésus dit, pardonnez comme le Père vous a pardonné. Éphésiens 4, 32, Colossiens 3, 13. Il faut qu'on pardonne comme Dieu et non pas comme le monde pardonne. C'est-à-dire, nous devons pardonner de façon divine et non humaine. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, on peut aimer d'une façon divine sans aimer d'une façon humaine. Mais quand on aime de façon divine, l'humain suit et se met à aimer aussi, petit à petit. Notre Seigneur est divin. Il n'a pas pu pardonner humainement nos péchés. Il est divin. Il nous a pardonné selon sa nature divine. Maintenant, il y a un cas spécial auquel il ne faut pas s'identifier parce que c'est un cas absolument unique au monde, dans tout l'univers et dans toute l'histoire de l'humanité. C'est ce qui s'est passé à la croix. Je vais faire juste une parenthèse pour vous expliquer ça, afin que vous compreniez bien ce qui s'est passé là. À la croix, Jésus demande humainement, c'est l'homme qui parle, il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et parle là humainement, il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que lui, il sait très bien ce qui est en train de se passer, Jésus. » Mais eux, là, les monstres qui l'ont battu, jugé, humilié, fouetté, craché dessus, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Parce qu'en fait, ces gens-là étaient utilisés, manipulés par le Père afin de faire ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire à juger Jésus, à le crucifier, à l'insulter, à le tuer. C'était Dieu qui voulait que eux fassent ça. Et il a même mis Satan, il a permis à Satan d'entrer dans Judas pour que Judas puisse faire une chose aussi incroyable que ça. Il lui a dit, Jésus a dit, enfin, on pourrait même dire qu'il a incité Judas à le faire, il lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Vous trouvez ça dans Jean 13, 27, c'est lors de la soirée de la Sainte Cène. Et les disciples ont pensé, bon, ben, Jésus lui dit qu'il faut aller donner de l'argent aux pauvres, parce que voilà, c'était lui qui le faisait en général. Ils n'ont rien compris, les disciples. Mais c'est écrit juste avant que, quand Judas a pris le pain, Satan est entré en lui. Alors c'est à qui que Jésus a dit ce que tu as à faire, fais-le promptement? À Judas ou à Satan? Aux deux. Parce que Satan ne pouvait pas faire sans Judas. Satan ne pouvait pas faire sans les religieux, Satan ne pouvait pas faire sans la foule déchaînée. Ces gens-là ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils étaient en train de faire la plus belle chose qui est arrivée sur cette terre, le sacrifice parfait qui nous donne la rédemption. Ils ne le savaient pas, oui, ils étaient pleins de colère, pleins de haine, pleins de... Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc ce pardon accordé à la croix, à tous les participants des responsables de sa mort, c'était un pardon qui est unique, auquel on ne peut pas s'identifier. Quand je fais quelque chose de mal, je sais que je le fais. Quand les gens nous font du mal, ils savent ce qu'ils font. Mais là, c'était manipulé par Dieu. Parce que c'était quelque chose de magistral, immense. C'était pour le salut du monde, c'était pas une petite histoire d'un château. Les acteurs de cet acte, de ce crime, ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils faisaient la plus grande chose que Dieu ait voulu, le sacrifice qui nous donne la rédemption. Il fallait bien quelqu'un qui fasse le sacrifice. Jésus était le sacrifice, il était... Mais il fallait bien que quelqu'un le sacrifie. Toutes ces brutes épaisses ne comprenaient rien, ne savaient rien, ne comprenaient pas. Et Jésus pria humainement pour que ce meurtre leur soit pardonné. Et il l'a été. Humainement, il a été pardonné. C'est-à-dire que la conséquence de ce meurtre est tombée sur la génération d'après. On va lire Luc 23, 28 à 31. C'est Jésus qui porte sa croix. Verset 27, il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple, de femmes, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent les jours où l'on dira, « Heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes, tomber sur nous, aux collines, etc. Ça signifie que Jésus a refusé les pleurs de soutien des femmes de Jérusalem. Il ne les a même pas remerciées pour leur assistance. Il les interpelle à ne pas se focaliser sur lui. Il dit « Ne pleurez pas sur moi ». En quelque sorte, il leur dit « Il y a d'autres choses dans la vie qui nécessiteront vos larmes. Et je veux que vos pleurs soient orientées vers le vrai problème. Et le vrai problème, c'est ce qui va vous arriver à vous et à vos enfants. » Alors, est-ce que Jésus, est-ce que ça a été pardonné ce qui est arrivé ou pas ? Et il parlait là de ce qui est arrivé en 70, à la chute de Jérusalem, lors de l'éparpillement des Juifs dans le monde entier, et de tout ce qui leur est arrivé dans le monde. C'est énorme. De là à les accuser de déicide, comme certaines églises apostates le font, et à agir contre les Juifs d'une façon absolument abominable. Il y en a qui n'ont pas hésité à franchir le pas. Le pardon accordé à la croix était le pardon que Jésus, homme, demandait à Dieu son Père pour ceux qui le crucifiaient. Ce pardon, il a été accordé, oui, certainement, mais les conséquences humaines n'ont pas pu être évitées. Elle devait arriver aussi. Est-ce que vous voyez la différence entre le pardon humain de Jésus et le pardon divin qui supprime tout châtiment, efface tout châtiment de l'offenseur, pour l'offenseur? Sachant ça, nous savons aussi que nous sommes tels que Jésus était sur terre. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est-à-dire humainement. Mais humainement, le Saint-Esprit habite aussi en nous, aussi bien qu'il habitait en lui. Mais il avait son côté humain et son côté divin. Eh bien, en tant qu'humain, nous avons maintenant le pouvoir de pardonner humainement ou divinement. Je vous demande une question. L'apôtre Paul, il était chrétien. Comment ça se fait qu'après avoir pardonné Alexandre le Forgeron, il écrit dans une de ses lettres quelque chose contre lui qui, 2000 ans après, est encore publié? Est-ce qu'il l'a pardonné ou pas? Et s'il l'a pardonné, pourquoi il écrit ça? Pardon humain, pardon divin. Et voilà, considérez que vous avez à pardonner comme Dieu vous a pardonné. Il n'y a donc plus besoin de revenir là-dessus sans cesse si vous avez pardonné divinement. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Beaucoup de temps, parce que la blessure elle était béante. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, mais ça y est, maintenant, je vous annonce une bonne nouvelle, j'ai compris. Fait du bien. Et chaque fois que celui qui vous a offensé revient, se présente à votre conscience, ou bien que vous pensez à la blessure qu'il vous a faite, vous dites ou vous pensez, la paix soit avec toi. Ne permettez pas aux mauvais souvenirs de vous faire redescendre au niveau du pardon humain. D'accord ? Alors, et puis faites aussi ce que la Bible dit de faire et qu'on a vu dans notre prédication la dernière, vendredi, veillez à ce que personne ne reste en arrière, c'est-à-dire ne veillez pas seulement sur vous-même, mais veillez aussi sur vos frères et sœurs. Si vous voyez que je retombe dans le pardon humain, reprenez-moi gentiment s'il vous plaît, mais reprenez-moi. D'accord ? Alors, faites ça chaque fois que cette pensée vous vient, et vous allez voir qu'avec le temps, la personne qui vous a offensé reviendra de moins en moins dans vos pensées et qu'elle finira par sombrer dans le néant. Ah bon, mais c'est pas très gentil ça de vouloir faire sombrer les gens dans le néant. Attention. Dans le néant de la mer de l'oubli. Ça, c'est le pardon de Dieu. Dieu a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli. Il l'oublie. C'est Dieu qui a fait ça à notre égard et il veut qu'on pardonne comme ça. Ésaïe 45, 25. Non, 43, 25. Oh, je ne sais plus. 43, 25. Dieu dit, pourtant c'est moi qui efface les transgressions à cause de moi-même et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Eh bien, moi aussi, je pardonne à cause de moi-même et je ne me souviens plus de cette offense. Ça, c'est comme Dieu fait. Et si ça revient dans ma pensée, je bénis. Plutôt que d'entretenir du... Alors, dans la vie, tout doit être éprouvé. Stéphane, encore Stéphane, il a monté un meuble qu'il a acheté pour son papa, parce que son papa, gloire à Dieu, rentre demain à la maison. Il a été hospitalisé quelque temps, mais maintenant ça y est, il rentre. Et il lui a monté un petit meuble pour mettre ses affaires de rasage, tous ces trucs-là dans sa salle de bain. Et pourquoi je dis ça ? Je ne sais plus. Ah oui, il l'a éprouvé, c'est-à-dire qu'il s'est appuyé dessus pour voir est-ce que c'est solide ou pas. On éprouve tout. On éprouve, il faut tout éprouver. La Bible dit que l'or est éprouvé. On le passe au creuset, on enlève les scories, on éprouve tout. La parole de Dieu même, elle est éprouvée. Dieu lui-même dit, mais mettez à l'épreuve ce que je vous dis, et vous verrez si je ne réponds pas sur vous la bénédiction. Tout doit passer par l'épreuve. Et il nous faut éprouver le pardon que nous avons donné. Si je vous raconte quelque chose de merveilleux au sujet d'une personne qui vous a trompé, qui vous a volé, qui vous a dépouillé, est-ce que ça va vous mettre en fureur ? Est-ce que vous allez être rempli d'un esprit de jalousie ? Est-ce que vous allez vous sentir frustré ? Si c'est le cas, ça démontre que les racines du ressentiment existent encore en vous et que ça vous ravage. Celui qui vous enfonce, il s'en fout. C'est à vous que ça fait du mal. Vous voyez, il faut mettre à l'épreuve. Écoutez bien, ça je l'avais dit il y a très très longtemps. Supposons que vous avez eu un abcès dentaire il y a un an, ça fait très mal un abcès dentaire, et que, supposons, vous veniez m'en parler. Alors je vais vous demander, est-ce que vous en souffrez encore de cet abcès ? Et vous allez répondre automatiquement, non, bien sûr. Mais je m'en souviens, mais je n'en souffre plus, mais je m'en souviens. Tout est là. Tout est là. Vous avez la souvenance de ce mal, mais vous n'en souffrez plus. Vous croyez vraiment que Dieu a oublié toutes vos offenses ? Non, il veut les oublier. Quand on veut oublier quelque chose, on s'occupe d'autre chose.
Quand on veut ne pas oublier, on pense qu'à ça. Mais quand on veut oublier, on passe à autre chose, on s'occupe d'autre chose, puis de temps en temps, ça nous revient à la mémoire. Mais quand Dieu, Dieu, il est obligé de se souvenir de ce qu'on a fait. Comme on est. Les chrétiens sont sans arrêt en train de dire, « Oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés, tu verras. Seigneur Jésus, mais je t'ai déjà pardonné, arrête de me demander pardon. » Mais les chrétiens lui remettent toujours, « Seigneur, regarde ce que j'ai fait, pardon, pardon, pardon. » Mais Dieu vous a pardonné et vous avez pardonné, mais le souvenir peut revenir de temps en temps par quelqu'un qui vous en parle ou par une photo que vous voyez ou par un truc que vous lisez, mais vous n'en souffrez plus. C'est comme la rage de dents que vous aviez il y a un an. Vous savez que ça existait, c'est vrai, mais vous ne le sentez plus. Voilà l'épreuve concluante. Là, vous avez passé l'examen, vous vous en souvenez, mais vous n'en souffrez plus. Là, moi, je m'en souviens, mais j'en souffre plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées depuis, formidables, des belles choses. Regardez, le toit de Mélodie est presque fini, la piscine est presque finie, la maison est magnifique, alors, on va bientôt refaire la chapelle, ça va être... On a plein de projets, on n'a pas le temps de s'occuper tout le temps, de se rappeler. Hein, vous comprenez ça? Voilà l'épreuve concluante. Voilà l'examen réussi et passé avec succès. Et ça doit être vrai psychologiquement et spirituellement. Sinon, vous vous trompez vous-même et vous ne pratiquez pas vraiment l'art du pardon divin. Le pardon que vous donnez doit être divin et il deviendra humain. Mais s'il est d'abord humain, ça va faire flop. Comprenez bien cela, mes frères et sœurs. Votre esprit est divin. Votre esprit est créateur. Et si vous dites à votre esprit consciemment de blâmer les autres, de blâmer les circonstances, votre esprit crée votre destin. Et vous récolterez des blâmes parce que votre esprit retient le mot « blâme ». Et vous serez le sujet d'un destin cruel. Et vous devrez toujours lutter contre les autres toute votre vie. Jusqu'à ce que la boucle soit complète et que vous ayez compris qu'il y a un pardon humain et un pardon divin. Et tout cela parce que vous récoltez toujours ce que vous semez. Ça, c'est une loi, on n'y coupe pas. Alors, pardonnez divinement et le pardon humain va s'installer dans votre nature humaine petit à petit. Vous croyez que Jésus a oublié? Ça fait 2000 ans qu'il était crucifié. Et quand il reviendra, il aura toujours les marques dans les mains et dans les pieds. Pourtant, il a un corps glorieux, mais il aura toujours les marques. Vous comprenez ça? Mais est-ce qu'il en veut encore? Non, c'est fini. Mais ça peut prendre du temps pour nous. Mais c'est là, si nous faisons comme ça, que la bénédiction et la grâce nous accompagnent chaque jour de notre vie. Amen. Merci Jésus de nous aider à mettre ces choses en pratique, de nous tenir fermement sur ces choses, de les vivre réellement au jour le jour. Et à chaque jour suffit sa peine. Je te demande de soutenir mes frères et sœurs qui souffrent à cause d'offenses qui leur ont été imposées et de leur faire comprendre qu'ils ont un pardon divin à accorder et qu'ils doivent observer une certaine technique de tranquillité, de paix et à imposer à leur être interne la paix. Par le nom de Jésus, je te le demande. Amen. Amen. Au revoir.